Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8 heures à Molodo, localité située dans le cercle de Nyono au centre du pays, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur, dame, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Révision de la liste des médicaments de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire AMO. CANAM annonce le retrait de 441 médicaments. Près de 3000 nouveaux médicaments ont été cependant ajoutés à la liste. À Bamako, les populations expriment leur mécontentement. Les activités de la Semaine nationale de la réconciliation ont été lancées ce week-end dans plusieurs endroits du pays. À Ménaka, les autorités locales appellent les autorités à travailler d'abord pour le retour de la paix, seul gage d'une véritable réconciliation. Manque d'infrastructures sportives à Nyono, des responsables du secteur lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités du pays afin que la ville dispose des infrastructures de qualité. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Je vous le disais dans les titres, la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, a procédé à la révision de la liste des médicaments pris en charge par l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Sur 3966 produits, 441 médicaments ont été retirés, soit 11,12%. En revanche, 2884 nouveaux médicaments ont été intégrés à la liste, ce qui équivaut à 71,7% des produits. Selon le syndicat des pharmaciens d'officine privée du Mali, cette révision est conforme, mais la situation reste mal comprise par certains assurés. Le point avec Adama Amadou Haïdara.
À Bamako, les assurés déplorent ce changement dans la prise en charge de certains médicaments par AMO. Pour eux, l'assurance maladie obligatoire devrait plutôt intégrer l'ensemble des médicaments dans sa prise en charge.
Chaque mois, on contribue et que tu trouves que vraiment...
On nous dit parfois qu'il y a des médicaments qui sont concernés par l'AMO et d'autres non. Je ne comprends plus rien. Nous, on aimerait que tous ces médicaments soient pris par l'AMO parce que l'AMO nous arrange. Il y a des médicaments qui sont très chers.
Moi, j'ai des vieilles dames à la maison. Et c'est grâce à ces médicaments et de confort digestif là, qu'on payait pour les soulager. Mais maintenant, s'il faut aller payer ces médicaments-là, sans... on va le faire, mais avec des larmes aux yeux.
Docteur Moussa Al-Mami Koulibaly, vice-président du syndicat des pharmaciens d'officine privée du Mali, rassure. Selon lui, les médicaments qui ne figurent plus dans l'assurance maladie obligatoire, AMO, ont des équivalents sur le marché. Il précise également que certains médicaments retirés sont des médicaments qui n'avaient pas d'autorisation de mise sur le marché malien ou qui avaient une autorisation temporaire. Docteur Moussa Al-Mami Koulibaly, vice-président du syndicat des pharmaciens d'officine privée du Mali.
Non, ils n'ont pas à s'inquiéter. On est là pour les soigner. Cette liste a été faite de façon collégiale. Tout le monde y a pris part, les soignants, les pharmaciens, la CANAM. On parle de la révision de la liste à mots tous les deux ans. C'est ce que la loi dit. Donc, passant de là, naturellement, si on révise la liste, les médicaments vont rentrer. Voilà. Donc, les produits qui se trouvent sur le marché, qui n'ont que des autorisations temporaires sur le marché, n'ont pas été pris dans ce cadre-là. Tous ces produits ont été mis là sur le marché, il n'y a aucun problème.
Il faut souligner qu'avec cette mise à jour de la Caisse nationale d'assurance maladie, ce sont 3858 médicaments et de dispositifs médicaux qui sont retenus sur la liste AMO.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. La création du comité de pilotage pour le référendum et des élections générales est salutaire, affirment les responsables de l'Observatoire et certains cadres du parti politique. Selon eux, ce comité et l'EJE, l'organe indépendant de gestion des élections, seront complémentaires pour bien organiser les futures échéances. Mais de son côté, le cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie demande de bien éclaircir les missions et compétences de chaque organe. Les détails avec Sita Sidibé.
Pour des responsables de Modèle Mali, Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, la création du comité de pilotage est une bonne chose. Docteur Ibrahima Sango estime que cet organe sera un appui pour l'EJ.
À notre avis, la création du comité de pilotage prouve que nous sommes en direction de l'organisation des élections et des référendums. Quand on voit la loi électorale, l'EJ est chargé de la gestion des élections, mais à côté de l'EJ, il y a le ministère de l'administration territoriale qui est chargé de l'organisation technique et matérielle.
Cet avis est partagé par le cadre d'échange des des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Cependant, ces responsables souhaitent de clarifier les prérogatives de chaque organe. Ibrahim Tamega, porte-parole du cadre d'échange.
Étant donné que leurs missions ne sont pas identiques, il n'y a pas de raison qu'il y ait sujet de discorde entre les deux structures. Il faudrait que les choses soient clarifiées dès le début pour qu'on ne soit pas en face de situations compliquées.
Il faut noter que certains partis politiques restent inquiets face à la lenteur de la mise en place des représentations de l'autorité indépendante de gestion des élections. Cette mise en place devrait être effective dans les régions communes et consulats au plus tard le 19 septembre 2022.
Un sujet signé, Sita Sidibé. Parlons à présent de la Semaine nationale de la réconciliation dont les activités ont été lancées la semaine dernière et qui se poursuivent à l'intérieur du pays. Pendant 7 jours, les Maliens de tous bords vont se retrouver pour parler de paix et de cohésion sociale. Du nord au sud du pays, les coups d'envoi de ces travaux ont été donnés. À Ménaka, par exemple, les élus communaux appellent les autorités à restaurer d'abord la paix, seul gage d'une véritable réconciliation dans la localité. Le point avec Ali Cissé, avec le concours de nos correspondants.
C'est dans un contexte d'insécurité grandissante suivi d'un déplacement massif des populations que le coup d'envoi de la Semaine nationale de la réconciliation a été donné à Ménaka. Pour les autorités locales, la réconciliation est possible dans la région, mais il y a des conditions. Nanout Kossia, maire de Ménaka.
S'il y a paix, la réconciliation c'est la chose la plus facile. Parce qu'à Ménaka, nous n'avons même pas de problème interethnique ou de communauté ou de race à Ménaka. Maintenant que l'État malien trouve une solution que les communautés aient la paix d'abord, de tous les temps, nous avons vécu ensemble et dans la plus grande cohésion.
À Kaï, le ton de ces activités a été donné par le représentant du maire. Pour Salif Traoulé, cette semaine est l'occasion pour tous les habitants de la cité des rails de mettre à profit leur engagement pour accompagner les autorités de transition dans leur mission régalienne. Salif Traoulé, représentant du maire de Kaï.
J'ose croire que ce lancement de la Semaine nationale de réconciliation sera le déclencheur du réveil populaire afin que la société civile, les hommes politiques accompagnent les forces armées et de sécurité nationale dans leur lutte implacable contre le terrorisme.
A noter que ces activités consacrées à la Semaine nationale de la réconciliation vont se poursuivre jusqu'au mercredi 21 septembre 2022.
Autre titre de l'actualité, la Confédération des fêtières du sous-secteur élevage du Mali s'est réunie la semaine dernière à Bamako pour améliorer la production du secteur et mieux répondre aux attentes des consommateurs des produits de l'élevage. Selon les responsables du regroupement, plus de 30% de la population malienne tire ses ressources du secteur de l'élevage. Un reportage signé Lalaïcha Walet Infa.
Pour Abdulkarim Sissoko, chargé des missions au ministère du Développement Rural, l'apport du secteur de l'élevage est important dans le développement du pays.
Le sous-secteur de l'élevage est important pour le Mali, puisque ça fait 12% du produit intérieur brut. Près de 30% de la population malienne tire leurs ressources essentielles de l'élevage. Donc, ce n'est pas un secteur à négliger.
Cet avis est aussi partagé par les organisations fêtières du secteur. Pour Aboubakar Ba, président de la Fédération Bétail Viande du Mali, le département en charge de l'élevage doit prendre les dispositions nécessaires pour faire des régions du pays des zones d'élevage par excellence.
L'élevage concerne toutes les populations rurales. C'est dans l'élevage que les populations thésaurisent, ils mettent leur argent, ils gardent leur argent pour payer les impôts, les ordonnances et tout ce qu'il y a comme dépenses. Le problème se situe au niveau du département de l'élevage qui doit être un département de production et de santé. Nous sommes un pays d'élevage. Il faudrait que nous mettons alors la force dans cet élevage-là.
Il faut noter également que le Mali est le premier pays de l'IEMOA en production animale et deuxième de la zone CEDEAO.
Qu'en est-il du métier de la bijouterie en argent? Est-ce que les professionnels du domaine se nourrissent-ils de leurs œuvres? Y a-t-il un intérêt ou pas de porter des bracelets de bagues en argent blanc? La réponse est oui dans certaines consciences collectives. Mais pour plus de précision, suivons quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Hawa Berthe.
Aujourd'hui, on ne gagne plus assez comme avant où les pièces d'argent blanc et les pépites d'or étaient moins chères, a indiqué Zandjougou Fane, bijoutier à la maison de l'artisan de Bamako. Selon lui, la fabrication des bijoux en argent ne rapporte plus.
La bijouterie rapporte, mais aujourd'hui, avec les bijoux chinois, ça nous a affaibli un peu. Ça nourrit notre famille. C'est la raison pour laquelle on est là. Mais la clientèle a beaucoup diminué compte tenu du pouvoir d'achat des clients.
Pourtant, le port des bracelets et des bagues en argent est presque général dans la capitale. Pour les traditionnalistes, Lanzeni Traoré, il y a plusieurs croyances qui encouragent le port de ces bijoux en argent.
Le port des bijoux a deux raisons. Parce qu'en cas de besoin d'argent, tu peux vendre. Les femmes portent aussi pour se rendre belles. En un mot, la finalité, c'est économiser de l'argent. Il y a des bijoux en métal aussi qu'on porte pour prévenir des maladies.
La cherté du métal blanc et l'envahissement du marché par les bijoux chinois ont eu un impact considérable sur les revenus des bijoutiers, ont regretté de nombreux professionnels du domaine.
Allant au centre du pays, la ville de Nyono est confrontée à un problème d'infrastructure sportive depuis un certain temps. Cette situation impacte le développement du sport dans la localité. Les responsables du domaine lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités du pays afin que Nyono dispose des infrastructures de qualité. Les détails avec Mohamed Sissé, notre correspondant à Ségou.
Il est difficile de pratiquer le sport à Nyono pendant l'hivernage à cause du mauvais état des terrains de football et la stagnation de l'eau sur l'aire de jeu. Ces propos sont du premier vice-président du conseil communal de la jeunesse, Kali Djakite, premier vice-président du conseil communal de la jeunesse à Nyono.
À Nyono, ici, c'est très difficile de mener des activités culturelles et sportives parce que les quelques rares infrastructures sportives que nous avons ici ne sont pas en bon état, même en dehors de l'hivernage. Et pendant la période hivernale, elles sont inondées. Il n'y a pas un terrain de football digne de ce nom ici.
Selon les responsables communaux, le manque de financement du sport et d'infrastructures font retarder le développement du sport à Nyono. Tchekuru Sogodogo, maire chargé de l'éducation, de la santé et du sport à la mairie de Nyono.
L'état actuel des infrastructures sportives à Nyono est délabré. Les investissements sont rares dans ce domaine. Les infrastructures tardent à être développées au niveau actuel des choses. Cela est dû au fait que le sport à Nyono n'est pas financé.
Malgré les difficultés dans le sport, la ville arrive à tirer son épingle du jeu dans certaines disciplines, notamment le basketball, dans les compétitions régionales. Mohamed Sissé, de retour de Nyono, pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à votre fidélité et renouvelez au quotidien au programme de Studio Tamani. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en bambara avec Idrissa Sako. C'est à la présentation Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Ne décrochez pas car l'info continue. Studio Tamani. Au Mali, la transformation des métaux mobilise de nombreuses entreprises membres de l'Union nationale des fonderies métallurgiques. Le secteur offre 100 000 emplois directs et indirects selon les membres de l'Union. L'industrie malienne de fer Imafer fait partie de cette coalition. Elle produit notamment des barres de fer, du fertilisant et de l'oxygène médical. Cette semaine, le magazine Parlons de l'environnement s'intéresse à la transformation des métaux usés par une nouvelle vie. Des métaux usés pour une nouvelle vie plutôt. Et c'est présenté par Mariam Koulibaly.
Le magazine Parlons de l'environnement. Une seconde vie est ainsi donnée aux métaux récupérés dans plusieurs usines. C'est le cas à l'industrie malienne de fer, Imafer. L'entreprise existe depuis 8 ans. Sur place, les camions arrivent, les agents de l'usine procèdent au triage. Adnan Jace, directeur d'approvisionnement de matières premières et de logistique à Imafer, nous explique le processus.
Parce que vous avez 3 genres de ferraille ferreuse, qu'on appelle le normal, le lourd et la fonte. Donc, le léger, c'est comme je vous ai expliqué, des petits pots et puis en même temps des carcasses de voitures. Le lourd, c'est des pièces qui viennent, par exemple, des grosses machines, Caterpillar, etc. C'est de l'acier pur. Et ensuite, vous avez la fonte. La fonte, c'est tout ce qui renferme, par exemple, des petits moteurs qui ont plein de design et tout ça. Mais cela, c'est la qualité la plus médiocre. Pourquoi ? Parce qu'elle renferme énormément de carbone. Donc pour pouvoir travailler sur le carbone, il faudra aussi beaucoup de processus.
Cette étape est ensuite suivie par l'étape de l'enfournement. Les métaux sont fondus et présentés sous forme de barres de fer. Ensuite, place au dressage et à la découpe. Mais en même temps, le gaz toxique qui se dégage est récupéré et utilisé notamment comme fertilisant dans les champs ou comme oxygène médical, précise Adnan Jace.
Quand, par exemple, parce que le processus, c'est quoi? C'est prendre cette ferraille, le mettre dans le four. Automatiquement, vous allez avoir du gaz qui va sortir, qui va s'échapper. Donc, ceci est aspiré directement par des machines qui vont devoir aussi le traiter. Donc, si vous voyez les cheminots, ceux-là, vous n'allez jamais remarquer de la fumée noire qui sort. Mais c'est toujours de la fumée blanche. Tout ce qui est toxique reste en bas et fermé dans des sacs qui sont aussi utilisables. Donc, rien n'est perdu.
Le produit fini est ainsi mis à la disposition des consommateurs. Mais ceux qui achètent ce fer à béton savent-ils d'où est-ce qu'ils viennent à la base? Certains oui, d'autres non. Par contre, ils sont tous unanimes sur le bien fondé de la démarche. Ils souhaitent aussi une baisse du prix.
J'ai appris que ce sont nos objets de récupération qui sont transformés dans les usines en fil de fer et en fer rond. Je pense que toutes les usines de fabrication de fer utilisent ces vieux métaux. Maintenant, le problème se situe au niveau du prix. Nous avons un modèle qu'on vendait à 2500, maintenant c'est à plus de 3000 francs. Vraiment, si on parvient à mieux utiliser ces objets de récupération, c'est une bonne chose et ça permettra de réduire le prix du fer.
Alors, il ne faut pas oublier aussi l'exportation de ces objets de récupération à l'état brut. Et cela pose problème aux unités de transformation. Avec une capacité de production de 500 tonnes, il m'a fait dire avoir des difficultés, comme toutes les autres usines métallurgiques du pays, à avoir assez de matières premières. Adnan Jace, directeur d'approvisionnement de matières premières et de logistique d'Imafer.
Et comme expliqué, nous enregistrons chaque jour des camions qui sortent sous l'œil vigilant, des douaniers qui n'ont aucune connaissance des différents types de ferraille. C'est normal. Actuellement, tous les types de ferraille sont en train de sortir en toute impunité et cela pénalise fortement car nous n'arrivons plus à recevoir une certaine quantité pour maintenir une production convenable. À savoir que la survie de nos usines dépend de cette matière première qui emploie plus de 500 employés dans des usines et contribue aussi au bien-être de plus de 5000 personnes considérant la famille élargie.
Toutefois, il faut souligner que les usines de métallurgie ont aussi des devoirs sociaux. Cela consiste par exemple à appuyer les centres de santé, les écoles, tout en protégeant l'environnement de leur zone d'implantation. Les responsables d'Imafer disent être conscients de cela. Ils demandent aussi aux autorités de mieux organiser le secteur. C'est ce qui met fin à ce numéro de magazine Parlons de l'environnement. Rendez-vous la semaine prochaine.